Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Cela transparaît peu dans le discours politique, mais le nombre de migrants qui rejoignent l'Europe a atteint son plus bas niveau depuis 2014. À la fin du mois de septembre, ils étaient moins de 100 000 à être entrés dans l'espace Schengen, 10 fois moins qu'en 2015. L'accord conclu en 2016 entre l'Union européenne et la Turquie pour bloquer les départs y est pour beaucoup, mais pas seulement. L'Italie puis l'Europe ont passé un accord avec la Libye qui se chiffre en centaines de millions d'euros, avec à la clé la formation des gardes-côtes libyens et l'extension de la zone maritime où ils ont l'exclusivité du sauvetage des migrants, avec toutes les dérives que dénoncent les ONG, à savoir la violence, le racket, le non-respect des demandes d'asile et le renvoi en Libye, pays peu sûr s'il en est. Aujourd'hui, on ne parle donc plus de crise migratoire, mais de gestion de flux migratoires, et les anciennes routes, celles entre la Turquie et la Grèce, entre la Libye et l'Italie, sont en perte de vitesse. En 2018, les migrants tentent surtout leur chance via le Maroc pour rejoindre l'Espagne. Et écoutez ce qu'en dit Camille Schmoll, chercheuse sur les mouvements migratoires en Europe. Elle est interviewée par Catherine Roland.
Aujourd'hui, on assiste à une reprise du passage par la voie entre le Maroc et l'Espagne. Et on sait qu'on a aujourd'hui des arrivées en France qui sont liées à la reprise d'utilisation de cette voie. En réalité, ce sont d'anciennes routes qui existent depuis longtemps et qui ont été réactivées. Aussi comme une conséquence en fait de la fermeture d'autres routes en Méditerranée. Alors ça met évidemment le Maroc sous pression puisque l'Union européenne a des attentes vis-à-vis du Maroc en termes de blocage des flux et ça crée les situations de tension qu'on a pu observer ces dernières semaines avec la mort de plusieurs migrants au départ du Maroc dans le détroit de Gibraltar.
Vous faites finalement une analogie entre la dérive des frontières et la dérive des politiques migratoires européennes.
Absolument, parce que on voit cette frontière donc qui ne cesse de s'étendre de la mer Méditerranée jusqu'à ces pays d'origine et de passage. Cette frontière qui est de plus en plus dure, de plus en plus militarisée, avec y compris des pratiques assez graves, comme on a vu que en fait une partie des fonds de l'aide au développement est actuellement utilisé pour le contrôle migratoire. Donc c'est aussi, disons, quelque chose qui peut aussi déstabiliser les pays de transit, les pays de départ. Et donc quand les migrants arrivent aujourd'hui en Europe, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, ils ont subi à de multiples reprises le traumatisme lié au passage de ces multiples frontières.
Et dans ce contexte, il n'est guère étonnant que l'ONU ait choisi Marrakech pour organiser la prochaine grande conférence internationale sur les migrations le 10 décembre prochain, alors que l'Europe rêve d'étendre son partenariat avec la Libye à l'ensemble de l'Afrique du Nord, le Maroc est sous pression. Pour satisfaire aux demandes de l'UE, le ministère de l'Intérieur se vante d'avoir intercepté cette année 68 000 candidats à l'immigration clandestine, plus du double par rapport à 2015. Pour la plupart, ces migrants sont renvoyés à l'extrême sud du pays ou expulsés hors du Maroc. Écoutez dans quelles conditions, c'est le reportage à Marrakech de Théa Olivier.
C'est le jour de la corvée du ménage dans le camp de migrants de Ouled Ziane, à quelques mètres de la gare routière de Casablanca.
On va essayer de nettoyer la cour et même l'extérieur de la cour.
Camara se présente comme le chef du camp où résident environ 400 migrants dans des petites cabanes de bois recouvertes de plastique bleu. Certains sont seulement de passage après avoir été renvoyés au sud du pays. Ils font à nouveau la route vers le nord dans l'espoir de rejoindre l'Europe. C'est le cas de Moussa, balai à la main et survêtement bleu sur les épaules. Il nous raconte comment il a été renvoyé dans le sud du pays après avoir été arrêté deux fois en forêt à la frontière des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Un point de passage stratégique en bordure de la Méditerranée, mais devenu aujourd'hui presque infranchissable.
Donc, quand ils nous attrapaient en forêt, s'ils ont vu quelque chose dedans, que ce soit de l'argent, ce qui est bon, donc on prend donc, tout ce que tu as. Là-bas, vraiment, c'est vraiment dur, c'est très dur. On n'a pas de moyens, donc on n'a pas de transport, on n'a pas des habits, ni chaussures, ni rien. On ne trouve pas de travail. On est obligé de faire manger pour avoir quelque chose à manger et avoir transport pour venir ici. Parce que nous, c'est que si on est venu à Casablanca, d'avoir mangé et puis de retourner en forêt encore.
Selon le groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et migrants, le GADEM, plus de 7700 subsahariens ont été déplacés de la région de Tanger vers le sud du pays entre juillet et septembre, sans aucune distinction administrative. Baïdi, sénégalais de 52 ans, s'est retrouvé à Tiznit, à 800 km au sud de Tanger, ville où il habite et travaille depuis 10 ans.
La police est venue chez moi, dans ma maison, vers les coups de 9h du matin. Là, ils ont tapé à la porte. Ils n'ont même pas demandé de contrôle, c'est-à-dire pas dire on fait une vérification d'identité, pas de contrôle. Non, ils n'ont rien expliqué. Il faut sortir, monter dans le bus et aller au commissariat. Une fois au commissariat, s'ils n'avaient pas de papier, on les a envoyés à 800 km à Tiznit. J'ai eu à perdre 2 ordinateurs, mon téléphone portable et de l'argent que j'avais là-bas, 1 200 euros. J'ai rien retrouvé.
Baïdi raconte avoir perdu son passeport en 2014 et il n'a pas de carte de séjour. Aujourd'hui, il vit à Rabat, mais il n'ose plus remonter à Tanger.
Tout ce que j'avais construit à Tanger, je peux dire que j'ai tout perdu. J'ai eu peur de retourner là-bas, peur de subir cette maltraitance, rabaisser ta dignité parce que c'est un problème de papier.
Indigné, le Sénégalais milite aux côtés du GADEM, car le Maroc, après avoir opéré 2 grandes vagues de régularisation qui ont concerné 50 000 personnes, concentre désormais tous ses efforts sur le contrôle des frontières. Coordinatrice au sein de l'association, Camille Denis revient sur le rapport de l'ONG Coups et Blessures. Non seulement les migrants sont déplacés à l'intérieur du pays, mais certains sont aussi renvoyés dans leur pays d'origine.
En général, on n'a pas beaucoup entendu de cas d'expulsion aussi massifs depuis 2005, mais on aurait dans les 92 personnes qui auraient été expulsées, ouais, dont 6 mineurs. L'Espagne devenant cette première porte d'entrée sur le territoire européen, il y a de plus en plus de pression qui arrive sur l'Espagne par rapport aux autres États européens et la pression revient sur le Maroc.
Un rapport que conteste Khalid Zerwali, directeur de l'immigration et de la surveillance des frontières au ministère de l'Intérieur.
Tout ce que nous faisons se fait dans la légalité. Bien sûr, il y a des gens qui ont fait la prison, il y a des gens qui sont impliqués dans des affaires de violence, etc. Ceux-là, on les invite à quitter. Ce n'est pas nouveau ce que nous sommes en train de faire au niveau du Nord. La seule différence, c'est qu'avec cette augmentation de pression, c'est normal qu'il y a une intensification de notre action à l'égard des réseaux.
Depuis janvier 2018, les services de sécurité ont démantelé 133 réseaux criminels actifs dans le domaine de la traite des êtres humains. Au total, ils ont intercepté 68 000 migrants, dont 13 000 Marocains. Des nationaux qui font aussi face à un contrôle drastique. Plutôt que de passer par les enclaves espagnoles du Nord, certains tentent désormais leur chance par le port de Casablanca.
L'Espagne, premier pays d'entrée désormais sur le sol européen selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un afflux qui pourrait coûter cher politiquement au gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Début décembre commencent les élections régionales et l'Andalousie, première sur la liste, commence déjà à sentir un frémissement dans l'opinion publique. Sur place, Laetitia Dive.
Des gardes-côtes espagnols qui sauvent régulièrement des migrants engagés sur de frêles esquifs pour rejoindre les côtes andalouses. Madrid, qui autorise les rescapés recueillis sur l'Aquarius sur son sol, l'Espagne de Pedro Sanchez se positionne à contre-courant de bien des pays européens, mais cette politique commence à susciter la polémique. Peu après l'arrivée du bateau de SOS Méditerranée dans le port de Valence, l'immigration est remontée en 5e place dans la liste des principales préoccupations des Espagnols, un rang rarement atteint dans le pays. Début septembre, une autre enquête d'opinion a donné des résultats similaires. 41% des sondés estimaient qu'il y a désormais trop d'immigrants dans le royaume. Une situation que dénonce aujourd'hui Vox. Le petit parti d'extrême droite espagnole compte profiter de ce nouveau climat de méfiance pour gagner des voix, notamment en Andalousie, la plus peuplée des communautés autonomes, organise ses élections régionales le 2 décembre prochain. Des candidats de Vox font campagne. Ils transforment les questions d'immigration en un véritable enjeu électoral, alors que les ports andalous auront vu défiler plus de 40 000 migrants d'ici la fin de l'année. Parmi les 100 mesures pour l'Espagne pensées par la formation d'extrême droite, une vingtaine concernent les migrants et la sécurité aux frontières. On y trouve notamment la construction d'un mur infranchissable dans les enclaves de Ceuta et Melilla, ou l'impossibilité à vie pour un migrant entré illégalement de légaliser sa situation. Ces propositions permettent à Vox de bénéficier d'un coup de projecteur. Le nombre de ses soutiens a été multiplié par 5 en seulement quelques mois. Et même si son influence reste pour le moment très limitée, l'émergence du parti a incité la droite à durcir le ton. Le nouveau leader du Parti populaire, Pablo Casado, a beaucoup utilisé l'argument de l'immigration illégale pour critiquer l'action du gouvernement ces derniers mois. Chez Ciudadanos, on prône aussi un plus grand contrôle aux frontières pour limiter les arrivées illégales et la coopération avec les pays d'origine. En face, Podemos prône au contraire une politique de l'accueil et entend faciliter l'accès à la résidence et au travail pour les réfugiés. Les différents partis le savent néanmoins, les élections ne se joueront pas sur l'immigration, mais plutôt sur leur capacité à enrayer le chômage et à lutter contre la corruption.
Et puisqu'on parle de flux, l'autre grand sujet de préoccupation de l'Europe concerne ce qu'elle appelle les flux secondaires. Ces mouvements illégaux au sein même de l'Europe, là encore de nouvelles routes voient le jour, qui passent par l'Albanie, la Croatie, la Slovénie. Mais il y a aussi tous ces migrants qui, arrivés en Italie, tentent d'échapper à la nouvelle politique anti-migrant de Matteo Salvini. Et on les retrouve aux Pays-Bas. Ils s'appellent alors des Dublinés, car selon l'accord européen de Dublin, ils sont normalement contraints de faire leur demande d'asile dans leur premier pays d'entrée, soit l'Italie. À Amsterdam, les voilà donc illégaux et dans un statut très précaire. C'est le reportage d'Antoine Moutot.
Souvent, en fin de journée, Annette Kauvenhofen de l'association Amsterdam City Whites vient rencontrer des sans-papiers dans une maison de l'Eirengracht, dans le centre d'Amsterdam.
C'est un centre communautaire pour les sans-papiers, un endroit où ils sont en sécurité. Ici, on peut leur donner des conseils, ils ont à manger et puis ils ont des activités aussi. Et surtout, avec notre association, nous cherchons régulièrement des lits, un endroit pour dormir pour les sans-papiers.
Rien que ce mois-ci, Annette Kauvenhofen et son association sont venues en aide à une trentaine de sans-papiers.
Depuis un mois et demi, la situation s'est nettement dégradée. Il y a de plus en plus de personnes, des Dublinais en provenance d'Italie, qui viennent nous demander de l'aide. Elles sont souvent fragiles et malades, car lorsqu'elles étaient en Italie, souvent elles n'ont eu aucun logement, aucun accompagnement médical et juridique.
Depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement italien, avec Matteo Salvini au poste de ministre de l'Intérieur, les migrants ne sont plus les bienvenus en Italie. Ils sont donc de plus en plus nombreux à partir et à rejoindre les Pays-Bas.
Les personnes ici nous racontent qu'elles ne se sentaient pas du tout en sécurité en Italie. Elles avaient l'impression qu'il n'y avait rien pour elles là-bas. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, mais nous pensons vraiment que c'est directement lié au climat politique.
Parmi les personnes venues chercher un peu de réconfort dans ce centre, on trouve Missy, 30 ans, originaire du Nigeria. Missy, ce n'est pas son vrai nom, mais comme pour les autres Dublinais ici, dévoiler sa véritable identité peut être synonyme de problème avec la police.
Nous sommes partis du Nigeria pour atteindre la Libye, puis de la Libye vers l'Italie. Mais vous savez, en Italie, ils nous ont fait dormir dans la rue. C'était très difficile pour moi. C'est pour ça que je suis ensuite venue ici, aux Pays-Bas.
Avant d'arriver en Europe, Missy a, comme beaucoup ici, traversé un véritable enfer. Quand elle en parle, son regard vide et fatigué se remplit de larmes.
Ah, vous savez, la Libye, c'est vraiment difficile. Déjà, avant d'arriver là-bas, on est passé par le désert. 6 personnes sont mortes. Puis une fois en Libye, on était dans des prisons. Ils nous ont battus. Parfois, on n'avait pas à manger et on était dans de tout petits espaces. En tout, je suis restée 4 à 5 mois en Libye.
En l'absence d'une réforme du droit d'asile que de nombreux chefs d'État appellent de leur vœu, c'est l'accord de Dublin qui s'impose. Nigérians, érythréens, soudanais, c'est sur le littoral italien qu'ils ont accosté pour la première fois en Europe, une route migratoire qui pèse aujourd'hui sur leur destin. Tous les migrants qui arrivent à Amsterdam ou ailleurs aux Pays-Bas doivent être renvoyés en Italie, leur premier pays d'accueil.
Aux Pays-Bas, ils nous disent qu'on est dublinés, donc on doit retourner en Italie. Mais moi, je ne veux pas, car là-bas, il n'y a pas d'endroit pour dormir.
Quelques rues plus loin, dans une autre maison de l'association, on rencontre John, originaire du Nigeria. lui aussi dans une situation plus que précaire.
Les trois nuits que j'ai passées dans la rue ont été terribles, car à ce moment-là, j'ai beaucoup pensé à ma vie, et c'est très mauvais pour moi. J'ai peur de la police, car l'an dernier, j'ai déjà été incarcéré et déporté une première fois en Italie.
L'Italie et le discours anti-migrant du gouvernement jouent comme un repoussoir. Mais aux Pays-Bas aussi, le discours politique anti-migrant du parti de Geert Wilders pèse sur les prochaines élections sénatoriales et européennes. Quant au maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, lui-même né au Maroc et arrivé aux Pays-Bas à l'âge de 14 ans, il a décidé, suite à des incidents, d'interdire l'accès d'un centre d'accueil de sa ville à tout nouveau migrant, tout en renforçant la sécurité.
Et pour notre chronique européenne, nous retrouvons Eve Minot. Bonjour Eve.
Bonjour Frédéric.
À partir de la rentrée prochaine, les étudiants étrangers non européens devront payer plus cher, beaucoup plus cher, pour venir fréquenter les bancs des facultés françaises. Officiellement, l'objectif affiché par le Premier ministre est d'attirer davantage d'étudiants étrangers, mais certaines voix s'élèvent contre cette réforme qui risque d'éloigner dans un premier temps les étudiants africains qui n'auront pas les moyens de payer ces frais d'inscription. Eve.
2800 euros en licence au lieu de 170 et jusqu'à 3800 euros en master et en doctorat. Pourtant, vous l'avez dit, l'objectif de l'exécutif n'est pas de faire fuir, mais bien d'attirer plus d'étudiants étrangers en France, d'où le titre de ce plan d'action Choose France, choisissez la France. 500 000 étudiants exactement sont attendus d'ici 2027 au lieu des 324 000 actuels, ce qui permettrait à l'Hexagone de retrouver sa place sur le podium des destinations les plus attractives pour les étudiants étrangers. Après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, qu'il avait dépassé en 2015, et juste devant l'Allemagne, qui a enregistré récemment une forte hausse d'étudiants étrangers.
Plus d'étudiants, Eve, reste à savoir lesquels.
Exactement, car sans surprise, cette mesure risque d'éloigner durablement, vous l'avez dit, les étudiants les plus modestes du territoire français, à commencer par les étudiants africains, qui représentent quand même 45% des effectifs des étudiants étrangers en France. Pour ces étudiants les moins favorisés, le nombre de bourses ou d'exonérations passera de 6 à 15 000. Difficile d'imaginer que cela soit suffisant. Le plan Choose France semble donc s'adresser avant tout aux futurs étudiants issus des pays émergents, dont l'Inde, la Chine, la Russie, qui mettent en concurrence les meilleures universités du monde dans cette guerre des cerveaux où le prix du diplôme peut être considéré par certains comme un gage de qualité.
Mais la France brise un tabou avec cette réforme, celle de l'égalité des étudiants devant les frais de scolarité.
Une philosophie qui surprend et déçoit certains étudiants étrangers. J'ai ainsi recueilli le témoignage de Augusta Lunardi. Elle est brésilienne, journaliste à France 24 et elle signe aujourd'hui une tribune dans le quotidien Le Monde pour souligner les difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les jeunes étudiants étrangers.
Moi-même, j'ai été étudiante étrangère en France et je sais que si les frais étaient si élevés à l'époque, je n'aurais tout simplement pas pu. J'ai travaillé depuis que je suis arrivée en France pour justement payer mes frais de scolarité toute seule. Déjà, ça a été très très difficile pour moi d'être une étudiante étrangère en France. J'ai rencontré beaucoup beaucoup d'obstacles. Du fait de ne pas être européenne et de ne pas être française. Par exemple, l'euro est très très cher pour des étudiants en Amérique latine. Déjà, 170 euros, c'était assez cher pour des gens qui doivent tout payer tout seuls, en loyer, etc. Donc, les frais à 2800 euros, c'est juste pas possible. Cette mesure est très élitiste et n'est pas du tout juste. Pour moi, le mot université, ça veut tout dire. L'accès est universel à tous.
Et du côté de l'exécutif, Eve, on se défend en mettant en avant les frais de scolarité imposés aux étudiants étrangers ailleurs dans le monde.
Alors en effet, si on compare la France aux grands pays d'accueil d'étudiants comme les États-Unis par exemple, où les frais de scolarité peuvent atteindre jusqu'à 30 000 euros pour une seule année, l'augmentation des frais en France semble toute relative. Même sur le continent européen, le modèle universitaire est lentement en train de changer et les étudiants étrangers sont les premiers à en faire les frais. C'est le cas au Royaume-Uni bien sûr, mais aussi aux Pays-Bas, où les frais d'inscription peuvent désormais atteindre jusqu'à 15 000 euros pour les étrangers. Même en Allemagne, pays connu pour la gratuité de ses études, le Land de Bade-Württemberg a décidé en 2007 de fixer à 1 500 euros par semestre, donc 3 000 euros par an, les droits d'inscription pour les étudiants étrangers.
Merci Eve Minot.
À la semaine prochaine.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission. Puis Accent d'Europe, restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité.